Nous proposons la lecture de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Nous lirons d'abord tout le chapitre. Donc au verset 1. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit « Anathème à Jésus » et que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité des dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit. Et à un autre la foi par le même Esprit. Et à un autre des dons de grâce, de guérison par le même Esprit. Et à un autre des opérations de miracles. Et à un autre la prophétie. Et à un autre des discernements d'esprit. Et à un autre diverses sortes de langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas œil et je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce les plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent.
Peut-être courtement, quelques paroles d'introduction par rapport au sujet qui est devant nous. Corinthe, en Grèce, visité par l'apôtre, ils sont son ouvrage, un rassemblement où il ne manquait aucun don, une profusion de dons. Seulement le problème des Corinthiens, c'est l'emploi qu'ils faisaient. On peut dire qu'ils jouaient un petit peu avec ces dons comme des enfants. On leur a dit d'ailleurs, ne soyez pas des enfants. Il y a une intention de l'esprit dans la succession, en tout cas de ces trois chapitres. Chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. On a pris cet exemple un peu médical. Le chapitre 12, dire c'est un peu l'anatomie, comme en médecine. Un étudiant en médecine peut apprendre l'anatomie du corps, tous les organes qui sont placés dans le corps. Chapitre 14 nous parle plutôt de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement, l'articulation de ces organes, leur fonctionnement entre eux. Et puis entre le chapitre 12 et le chapitre 14, nous avons le chapitre 13 qui nous parle de l'amour, du cœur. Et c'est bien le cœur qui fait fonctionner les organes qui nous sont décrits ici. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose tout de suite. Il est question des dons de grâce, des dons de grâce donnés par le Saint-Esprit. Je voudrais tout de suite qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête d'aucun jeune et de moins jeune. Lorsqu'on est dans le rassemblement, dimanche matin en particulier, prier, indiquer un cantique, ne relève pas d'un don particulier. Ça me paraît important à préciser. Si un jeune se dit, moi j'ai pas le don de m'exprimer, d'exprimer une prière, de lire un passage ou en réunion de prière, de prier, parce que j'ai pas de don, il se trompe. Oui, t'as peut-être pas un don tel qu'ils sont énumérés là, mais prier en assemblée, lire un passage en assemblée, indiquer un cantique en assemblée, ne relève pas d'un don particulier. Ça paraît important à préciser. Et souvent, il y a une confusion, disant « oui, mais moi, je n'ai pas le don de parler. Moi, je n'ai pas le don de parler. » Dans ce cas-là, tu te mets en compagnie d'un certain Moïse qui a dit « c'est la langue pesante. Ouais. » C'est comment Dieu a réagi. Ouais. On ne peut pas avoir Dieu avec toi dans ce cas-là. Excusez-moi pour cette petite précision, peut-être venue un peu trop tôt.
Concernant ce qui est dit tout à fait au début, au premier verset, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et cette expression, pour ce qui est des manifestations spirituelles, si on regarde ce qui est dit dans le chapitre précédent, on voit que l'apôtre, en fait, répondait à des questions qui lui avaient été posées. On le voit au chapitre 7. Alors, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, etc., on voit ce qu'il développe au chapitre 7. Concernant l'homme et la femme, etc. Et puis au chapitre 8, pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, et il développe aussi quelque chose dans ce chapitre, et dans les chapitres suivants aussi, et puis ensuite, au début de notre chapitre, chapitre 12, pour ce qui est des manifestations spirituelles. Donc il y a différents sujets, en quelque sorte, pour lesquels les Corinthiens avaient écrit à l'apôtre, il semble, et on voit qu'il prend ces sujets un peu les uns après les autres et conduit par l'Esprit de Dieu pour donner quelque chose sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Donc ici, c'est les manifestations spirituelles, et pour ce qui est, le mot manifestation est entre crochets, c'est pour ce qui est du spirituel, en quelque sorte, de tout ce qui est réalisé par l'action de l'Esprit. Alors, les Corinthiens étaient dans une situation qui est très différente de la nôtre, parce que on voit ce qu'il dit ensuite, vous étiez, gens des nations, entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. Les Corinthiens avaient affaire aux idoles, comme Paul le dit au chapitre 10, derrière les idoles il y a des démons, et donc ils avaient affaire habituellement à l'action des démons, des mauvais esprits, auxquels ils sacrifiaient ils apportaient des sacrifices. Donc ça c'était quelque chose qui était habituel pour eux. Et le danger, c'était justement qu'il y a besoin d'être enseigné sur ce qu'était maintenant l'action de l'Esprit de Dieu qui était en eux maintenant, et de faire bien la différence. Multiples démons, multiples esprits, un seul esprit pour l'Esprit de Dieu, et de nature bien sûr opposée, totalement différente. En ce qui nous concerne, on est peut-être voilà, on a moins, enfin, en tout cas, pas à faire aux idoles, en tout cas dans nos pays, comme c'était le cas à ce moment-là, d'être moins au fait, justement, de l'action des mauvais esprits, qui sont pourtant une réalité dans notre pays, enfin, ailleurs, en Afrique en particulier, où on le voit beaucoup plus ouvertement, mais on n'a pas, voilà, on n'a peut-être pas la même, on n'a pas le même arrière-plan que les Corinthiens. Et peut-être ce qui est important, c'est de, justement, on réalise que pour ce qui est donc du domaine spirituel, ce qui est le sujet qui est passé devant nous, il y a effectivement le diable et ses anges, les mauvais esprits, qui sont là, qui agissent. Et puis, il y a aussi l'Esprit Saint, personne divine qui habite en nous, qui habite dans l'Assemblée, qui est la personne divine qui est sur la terre actuellement, et de bien voilà, être au clair sur ces choses-là, et de ne pas ignorer non plus l'action des mauvais esprits. C'est quelque chose qui est une réalité. Et donc, ce que nous avons besoin d'apprendre semble un peu différent. Notre arrière-plan est différent. Et donc, c'est aussi très important pour nous d'entrer dans ce domaine spirituel où il y a effectivement ces mauvais esprits et l'Esprit de Dieu qui agissent.
Juste dire aussi un peu un mot qui me semble important aussi un peu en introduction pour que on aborde les choses peut-être de la bonne façon aussi. Il est parlé de là des manifestations spirituelles dans le corps de Christ et du corps de Christ. Et peut-être que, par habitude, parce qu'on est tellement habitué à cela, dans notre tête, on fait un raccourci des corps de Christ et on va réfléchir uniquement en disant égal les rassemblements dans lesquels je vais habituellement. Et il me semble qu'il faut bien avoir dans nos cœurs, dans nos pensées, dès le début, quand on va lire ces chapitres, il s'agit là du corps de Christ. Et cela veut dire que les dons sont pour l'ensemble du corps. Et il faut qu'on ait nos cœurs qui soient ouverts à cela, à penser à cela, que Dieu donne, selon sa souveraineté, ses dons pour l'ensemble du corps et dans l'ensemble du corps. Ça ne veut absolument pas dire qu'on peut avoir... En disant ça, on dirait, ben, ça veut dire que puisqu'il y a un don, ça veut dire que forcément, je peux aller n'importe où. C'est un autre aspect, c'est un autre sujet. Il y a un chemin dans lequel on marche, c'est pas le sujet de ces études. Mais, par contre, nos cœurs doivent être ouverts à cela et bien penser que le Seigneur donne des dons souverainement pour l'ensemble du corps. Et que ce soit quelque chose qu'on ait bien dans nos cœurs lorsqu'on étudie aussi ces sujets tout au long de ce chapitre.
Chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens nous est parlé donc des dons de l'Esprit, donnés par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, on voit ce Esprit de Dieu mentionné à 11 reprises dans le début du chapitre 12, l'Esprit de Dieu au chapitre 3, puis ensuite l'Esprit. On voit que c'est vraiment caractéristique de ces dons, les dons de l'Esprit. Et le but, c'est l'utilité. On voit à deux reprises au moins ce terme, utilité, pour le corps de Christ, pour l'unité du corps de Christ. Alors qu'il y a diversité des dons, mais il y a une unité. Il a été dit aussi que dans le chapitre 12, 13, 14, nous avons trois chapitres qui sont suivis et qui sont tous, qui a tous une bénédiction particulière pour la vie de l'Assemblée locale comme la vie du corps de Christ tout entier. En chapitre 12, on peut dire qu'il y a l'esprit de puissance. Chapitre 13, il a été dit que nous avons l'esprit d'amour. Et au chapitre 14, l'esprit de conseil. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans la seconde épître. Il avait parlé des dons dans le Nouveau Testament, nous avons en Romains 12, n'est-ce pas, les dons de Dieu, avec la manière, comment on peut les utiliser pour le bien, l'état spirituel de ceux qui ont reçu des dons. On voit par exemple le service, soyons occupés du service. Don de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, on a aussi la grâce de Dieu, d'ailleurs, qui nous en est parlé. Chacun de nous, la grâce a été donnée.
puis il y a les dons que le Seigneur Jésus donne pour l'accroissement du corps. Et là, il y a les dons principaux, les dons permanents, les dons pour l'ensemble du corps, pour l'édification du corps de Christ. Ici, en Corinthiens 12, c'est les dons de l'esprit. Et il y a aussi le but afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Combien pouvons baisser la tête, n'est-ce pas? Nous voyons ce que l'apôtre Paul demandait aux Corinthiens, répondait à leur question, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Alors qu'il peut dire au début de cette épître qu'il y avait, il disait, moi je suis de Christ, moi de Paul, moi de Céphas, moi d'Apollos. Il y avait bien des divisions. Et pourtant, une assemblée de Dieu à laquelle le Seigneur parle et enseigne, malgré les difficultés qui s'y trouvaient. C'est pas à nous à dire qu'il y a des difficultés là, eh bien, c'est terminé. Non, l'apôtre Paul continue à enseigner, à s'adresser à cette assemblée. Il le fera dans la première comme dans la deuxième épître. Et puis alors en 1 Pierre 4, où il nous est parlé aussi des dons de grâce, il nous est dit au verset 10 suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce. Employez-le les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Pas les uns contre les autres, les uns pour les autres. Et aussi afin que personne ne manque de la grâce de Dieu. Les dons de grâce. Chacun de vous a. Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu un don de grâce. Nous avons tous reçu un don de grâce. Et nous avons la responsabilité de l'employer pour l'utilité, pour l'édification, pour l'accroissement du corps.
J'aimerais simplement revenir quelques instants sur le début de ce chapitre, et en particulier le verset 3. On pourrait être surpris de ce qui nous est dit là, d'une part, nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus. Et nul ne peut dire Seigneur Jésus, si ce n'est par l'Esprit Saint. Bon, étant donné que ces versets s'adressent, on l'a dit, à ceux qui font partie du corps de Christ, même si parmi les Corinthiens, il n'y avait peut-être qui suivaient sans avoir la vie de Dieu. Et ça pourrait bien être le cas aussi pour certains qui suivent les réunions facilement ou qui prêtent une oreille attentive même à la parole de Dieu, mais dont le cœur n'est peut-être pas engagé personnellement pour le Seigneur Jésus, ou qui n'a pas la vie de Dieu en lui, cette vie de Dieu qui est marquée par le Saint-Esprit. Et il y a ce verset, nul ne peut dire anathème à Jésus, et nul ne peut dire Seigneur Jésus, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. J'aimerais lire simplement deux autres versets. D'abord dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 12, Jean 16, verset 12. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà le but de l'Esprit de Dieu, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Ça nous montre bien que le centre, le but de toute action spirituelle, selon l'Esprit de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus soit glorifié. En contraste, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, il y a un avertissement qui a toute son importance aujourd'hui encore. Premier épître de Jean, chapitre 4, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. » En contraste, il y a l'esprit de l'Antichrist. Alors c'est peut-être certainement un avertissement pour nous aujourd'hui aussi. Ne croyez pas tout esprit. C'est pas parce qu'il y a des manifestations spirituelles, des gens qui parlent de Dieu, qui parlent de l'esprit de Dieu, que tout est bon à recevoir. On a besoin d'être attentif, d'écouter les mises en garde que les apôtres nous donnent, que l'Écriture tout entière nous donne, et ne pas écouter n'importe quoi. C'est tellement important aujourd'hui, alors qu'on a des facilités immenses, infinies presque, d'entendre. Internet nous amène sur toutes sortes de sujets, y compris des sujets spirituels, et on pourrait s'imaginer que parce que quelqu'un parle de choses spirituelles, ben c'est quelque chose qu'on peut recevoir directement. Non, la parole nous dit « éprouvez tout esprit ». Il y a des esprits qui sont de Dieu et des esprits qui ne sont pas de Dieu. Il y a des esprits, des mauvais esprits. Il y a des esprits de mensonge, des esprits qui, tout en mentionnant la parole de Dieu, disent des choses qui sont totalement erronées, totalement fausses. Alors le critère, ce qu'on a là dans le verset du chapitre 12, attention, est-ce que ce qu'on entend va nous amener à être dans l'opposition à l'autorité du Seigneur Jésus ou à la gloire du Seigneur Jésus? Ou bien, comme on l'a lu dans Jean 16, est-ce que c'est quelque chose qui va nous amener à glorifier le Seigneur Jésus et que lui soit glorifié? Voilà certainement le critère. Nul ne peut dire « Seigneur Jésus », c'est-à-dire reconnaître l'autorité du Seigneur. Et en particulier dans ce chapitre 12, on voit bien que tout est centré au fond sur le Seigneur Jésus, c'est son corps. Et nous sommes des membres du corps même. Voilà, l'image, elle est tellement belle, elle est reprise à tant d'autres reprises dans les épîtres. Mais il y a cet avertissement tout au début de ce chapitre auquel on a besoin d'être attentif. Est-ce qu'une manifestation spirituelle que nous entendons ou dont nous parlons, est-ce qu'elle glorifie le Seigneur Jésus? Est-ce qu'elle attache notre cœur au Seigneur Jésus? Voilà bien le point important.
Juste quelques pensées sur les trois versets, surtout sur ce que Jean-Paul vient d'indiquer tout à l'heure. L'apôtre commence ce chapitre par « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Qu'est-ce qui nous gardera d'être ignorants? La parole de Dieu reçue dans le cœur, la parole de Dieu nous dirigeant. On a dit qu'il y a une unicité de pensée dans ces chapitres 12, 13, 14. L'apôtre commence par « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Et il termine le chapitre 14 par « Si quelqu'un veut, on pourra le lire. » Verset 38. « Si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. » C'est-à-dire, les choses sont claires. Et Dieu donne sa pensée et il veut que cette pensée nous dirige. Il encadre ces trois chapitres pour bien poser le fonctionnement, la vie du rassemblement. Alors, la deuxième chose qu'il nous dit, c'est que quand vous étiez gens des nations, vous étiez menés. Ceux qui sont sous l'action du mauvais esprit, ils ne se contrôlent pas. Il n'y a pas une telle chose dans le rassemblement. Quand nous sommes dirigés par l'esprit. L'esprit est l'esprit de sobre bon sens. Et quelqu'un ne peut, on ne peut pas dire « j'ai été emporté ». « vous étiez mené. Et ça nous parle aussi de notre responsabilité. L'Esprit peut nous donner quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment. La parole à propos, comme elle est bonne. Et il y a la chose, et il y a aussi le chemin que le Seigneur ouvre. Et si nous sommes soumis au Seigneur, lui-même nous tracera ce chemin. La troisième chose, c'est ce que Jean-Paul vient de nous dire tout à l'heure. Nous ne devons pas oublier que, on va peut-être lire ce verset dans Jean chapitre 7. Verset 39. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit sur la terre est le témoignage de la gloire du Seigneur Jésus. Et la conséquence de sa mort, de sa résurrection et de son élévation dans la gloire. Et comme Jean-Paul vient de nous dire tout à l'heure, le rôle du Saint-Esprit, son activité, c'est de glorifier le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Acte 2? Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait et Seigneur et Christ, et Jésus que vous avez crucifié, ou ayant été exalté à la droite de Dieu, ayant reçu l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous entendez et voyez. La conséquence, celui-là me glorifiera, de telle sorte que le but du Saint-Esprit est d'exprimer cette gloire du Seigneur Jésus. Et son propos, c'est cela.
Je voulais lire trois passages pour illustrer l'action des mauvais esprits. Au Actes chapitre 16. Or il arriva que comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en prophétisant procurait à ses maîtres un grand gain vint au devant de nous. Et marchant après Paul et nous, elle criait disant: cet homme sont les esclaves du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'Esprit: je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Donc voilà comment l'action de ce mauvais esprit, cette femme était démoniaque, et pourtant elle disait des choses très justes. Puisqu'elle disait, ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Donc il faut toujours faire attention à ce que les personnes disent et comment elles le disent. On peut remarquer ici, elle ne prononce pas, elle a dit ce message pendant plusieurs jours et jamais pendant ces jours-là, elle ne prononce le nom du Seigneur. Exactement ce qu'il nous dit 1 Corinthiens au chapitre 12. Un autre exemple, au chapitre 8 des Actes, où on voit encore une manifestation spirituelle qui a sa source dans Satan, au chapitre 8, Actes 1, verset 9. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage auquel tous s'attachaient. depuis le petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Et ils s'attachaient à lui parce que depuis longtemps, il les étonnait par sa magie. Un peu plus loin, verset 13, et Simon, donc ce magicien, Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe. Un petit peu plus loin, verset 18, or Simon, voyant que l'Esprit Saint est donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'impose les mains reçoivent l'Esprit Saint. Et Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Donc on voit ici encore un homme qui agit par la puissance de Satan et qui veut, et qui fait plutôt des miracles et qui étonne tout le monde par sa magie. Et on voit bien ici, il est marqué, il crut et il fut baptisé, et pourtant, il est toujours dans l'erreur et il est toujours loin de Dieu. Hein. Pierre, donc, le remarque. Un dernier passage dans le livre de Deutéronome, pour nous montrer encore, ce n'est pas nouveau, que l'action et les manifestations spirituelles par la puissance de Satan, ce n'est pas nouveau, et que c'est le saint qui doit discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Donc chapitre 13 de Deutéronome. Il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle, dont il t'avait parlé lorsqu'il disait « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-le. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
Peut-être préciser que ce qui est bien souligné, ce qui est dit ici en 1 Corinthiens 12, c'est que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » par l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que mauvais esprit, il y en a des exemples dans la parole, ne puisse pas prononcer le nom de Jésus. On peut lire par exemple ce qu'on voit en Matthieu 8, lorsqu'il y a ces deux démoniaques, il est dit, verset 29, « Y a-t-il entre nous et toi Jésus, fils de Dieu ?» On aurait la même chose dans l'évangile de Luc pour le démoniaque mentionné un peu dans les mêmes circonstances. On voit aussi par exemple en Marc 1, ce qui est dit au verset 23, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde et il cria disant « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. » Donc, ces mauvais esprits savent très bien qui est Jésus, qui est Dieu, etc., et peuvent en parler, mais ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur. C'est surtout ça qui est souligné en 1 Corinthiens 12. Ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Ils peuvent en parler, bien dire qu'il est le Fils de Dieu, mais pour eux, il n'est pas leur Seigneur. Et nul ne peut dire Seigneur Jésus, vraiment, ce n'est pas l'Esprit Saint. Dans ce chapitre, dans cette introduction qui nous est donnée là, c'est justement pour distinguer les mauvais esprits de l'action de l'Esprit de Dieu, ça nous est donné. Spécifiquement, je veux dire, on pourrait dire Seigneur Jésus, même un enfant, quand on a des enfants, on les élève à apprendre à prier en disant Seigneur Jésus, sans qu'ils aient encore l'action de l'Esprit en eux, etc., faut pas non plus aller au-delà de ce que dit l'Écriture. Le mot, le terme peut être employé, c'est différent de ce qu'on apprend à connaître quand on grandit dans la foi, mais là, il s'agit de distinguer l'action de l'Esprit de Dieu de l'action des mauvais esprits. Et un mauvais esprit ne peut pas dire Seigneur Jésus. Pas possible. Même s'il parle de Jésus, même comme fils de Dieu. Alors que, justement, la caractéristique de l'action de l'esprit dans le croyant, c'est justement de prendre ce qui est à Christ, de communiquer, comme on l'a vu en Jean 16, et de nous permettre d'avoir cette relation avec Jésus, dont nous reconnaissons l'autorité, comme Seigneur. On a cru en lui comme Sauveur, et puis Dieu seul travaille sa grâce en nous en donnant le Saint-Esprit, qui nous permet alors d'avoir cette relation avec le Seigneur Jésus, qu'on reconnaît comme Seigneur. Ailleurs, il nous a dit aussi que c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons appeler Dieu notre Père, véritablement. C'est l'action de l'Esprit en nous qui nous permet de jouir cette relation d'intimité et de pouvoir, de connaître Dieu vraiment comme notre Père. C'est important, il me semble, de bien réaliser le privilège qui est le nôtre aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit, une personne divine qui habite en nous et aussi au milieu de nous pour nous unir ensemble, pour former le corps de Christ avec tous les croyants et qui nous permet d'avoir ces relations spirituelles avec Dieu lui-même, avec le Seigneur lui-même dans le ciel. Donc c'est vraiment ce lien vivant qui nous est donné pour pouvoir vivre sur la terre en communication avec notre tête spirituelle, on peut dire, et puis avec Dieu connu comme Père, une vie qui soit à la gloire de Dieu, pour rendre ce témoignage auquel nous sommes appelés. Nous avons le Saint-Esprit comme un esprit de puissance, effectivement, qui nous permet d'agir, de fonctionner comme Dieu le veut, dans cette place qu'il nous a donnée dans le corps de Christ.
Très courtement, pour que ces choses soient bien pratiques, qui de nous n'a pas eu affaire à des gens qui sonnent à votre porte, qui disent « Bonjour monsieur, bonjour madame, on voudrait s'entretenir avec vous de l'avenir du monde. » Voilà. On les a vite reconnus, témoins de Jéhovah. Et personnellement, j'ai eu affaire à des jeunes qui ont été très déstabilisés parce que ces gens parlent du Seigneur. Parce que ces gens vous citent la parole. Quelqu'un disait, Satan n'est jamais aussi dangereux que quand il cite la parole de Dieu. Il y a une certaine logique, une certaine cohérence dans ce que ces gens disent. Mais ce verset qui nous occupe actuellement répond à cela. Tout ce qui discrédite la personne du Seigneur Jésus n'est pas de l'Esprit de Dieu. Le but de Dieu, c'est de glorifier son Fils. On a lu Jean 16, « Celui-ci me glorifiera ». Si on donne, ne serait-ce qu'un peu, position d'infériorité, petit discrédit sur la personne du Seigneur, il faut arrêter tout de suite. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si séduisant, même si la parole de Dieu est citée, même si on parle à la personne du Seigneur, nous devons être extrêmement vigilants. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit. Et nous avons tous affaire à ça, n'est-ce pas? Et bien que nous soyons, que ce verset puisse nous aider par rapport à ces gens-là. Alors bien sûr, il y a des âmes égarées, et c'est bien la personne du Seigneur qu'il faut leur présenter, mais que le Seigneur nous donne de la présenter alors à ces gens-là, par l'Esprit de Dieu. Sa glorieuse et merveilleuse personne. Il n'y a que ça pour lutter contre leur raisonnement fallacieux.
Encore un point aussi en lien avec ce « je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Pour discerner ce que sont ces manifestations spirituelles, l'esprit, un point aussi très fort qu'on rappelle parfois, mais il me semble que c'est très important d'insister dessus, l'esprit de vérité ne peut jamais être en désaccord sur quoi que ce soit avec la parole qui est la vérité. Les choses vont ensemble. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'avec ces manifestations spirituelles, il peut y avoir cette fausse pensée, et de dire que quand on se sent conduit par l'esprit, alors ça ouvre la porte à tout, parce qu'on dit, mais je sens que l'Esprit de Dieu a mis ça sur mon cœur, me conduit à telle chose, etc. Comme si ça devait fermer la bouche à tout, parce que je me sens poussé par l'Esprit à cette chose-là. Par exemple, sur un tout autre domaine, on entend des jeunes chrétiens qui disent « Ah, mais je sais que cette fille ou ce garçon n'est pas croyant, pour l'instant il n'est pas encore converti, mais je sens que le Seigneur l'a passé sur mon chemin. » L'Esprit de Dieu qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec un incrédule », la parole de Dieu qui dit cela, l'Esprit ne va pas vous dire « Mais toi avec cet incrédule, c'est impossible, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, quand la parole dit aussi « Je ne veux pas que vous soyez ignorants », on a insisté sur ce point-là, c'est important. C'est aussi de se dire l'Esprit n'est pas une puissance qui conduit les chrétiens à des sentiments personnels où chacun va avoir sa pensée sur son sujet. Du moment qu'on pense qu'on a la pensée de l'Esprit de Dieu, ben, chacun fait ce qui est bon à ses yeux, chacun ressent les choses et c'est ça qui va tout déterminer. Non, l'apôtre dit là « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Voilà l'enseignement, voilà ce que la parole de vérité conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que l'enseignement qui vient de Dieu, et je désire que vous connaissiez, que vous compreniez ces choses, que vous ayez des convictions, que ce soit ce qui est dans la parole qui forme vos pensées sur ce sujet-là et non pas votre ressenti sur ces différents sujets. Alors c'est aussi un point qui est important, pourquoi il faut insister dessus, parce que c'est quelque chose qui, il ne s'agit pas de montrer du doigt les chrétiens qui se trompent, la question n'est pas là, c'est pas cet esprit-là qui va nous animer, mais il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est une dérive de la chrétienté autour de nous qui est très grande. Cette pensée que l'important c'est ses émotions, ses ressentis, parce que c'est la manifestation, c'est ça la manifestation spirituelle, c'est ce que je ressens sur tel ou tel sujet. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que la parole de Dieu enseigne qui doit former nos pensées. L'esprit de vérité n'est jamais, ne peut pas être en contradiction sur quoi que ce soit avec la parole qui est la vérité.
Effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est un point capital, que l'esprit de Dieu ne donnera jamais quelque chose qui nous éloigne du Seigneur Jésus, ou quelque chose qui est en contradiction avec l'enseignement des Écritures. Et puis il y a quelque chose d'autre qui se rattache particulièrement au passage que nous avons devant nous, tel que nous le lisons dans les versets qui suivent, après verset 4 et suivant, c'est que d'une part, les manifestations spirituelles, elles sont des dons, c'est-à-dire quelque chose que Dieu nous donne, et des dons de sa grâce. Ce n'est pas notre capacité naturelle ou notre instruction, tout ce que nous avons pu apprendre, même si c'est lié à l'enseignement des Écritures. Mais nous recevons cela, chacun de nous, puisqu'il y a ce terme que nous retrouvons, chacun, et puis également, comme on l'a dit aussi, un autre, un autre, un autre, un autre. Et cela nous montre bien que, d'une part, Dieu donne. C'est lui qui donne, c'est lui qui donne chaque don. Et puis cela, pas pour nous glorifier, pas pour nous amener à être au-dessus des autres, qui que ce soit d'ailleurs, mais bien pour que nous réalisions aussi que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est bien également le sujet de ce chapitre où il est parlé du corps et des membres du corps, c'est que chacun de nous, nous avons besoin l'un de l'autre, les uns des autres. Et comme disait quelqu'un aussi, ce qui me manque, c'est mon frère qui l'a. Donc j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur, parce que c'est tous ensemble que par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce corps peut fonctionner, ce corps est formé et ce corps fonctionne. Donc je voulais simplement insister sur cet aspect-là, que nous allons retrouver tout au long de ce chapitre. Diversité de dons de grâce, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas et n'est pas autosuffisant, si l'on peut dire. Nous avons tous quelque chose qui nous manque en nous-mêmes quant à l'exercice des dons et quant à la nature des dons qui peuvent être la part de l'un ou de l'autre. Et certainement, c'est une des beautés de ce que Dieu a voulu faire pour nous amener déjà à rester humbles, petits à nos propres yeux, et puis en même temps à avoir besoin l'un de l'autre. Et je crois que ce point-là, il est tellement important aussi de nos jours, dans un monde qui est de plus en plus individualiste, égoïste. Nous avons besoin l'un de l'autre, les uns des autres. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Chacun de nous, si nous le réalisons vraiment, eh bien, nous serons gardés d'une part, nous serons gardés dans l'humilité, et d'autre part, ça, c'est quelque chose qui permettra à ces liens qui nous unissent dans le Seigneur de se vivre vraiment.
J'aimerais lire dans Actes 4, verset 13. Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Cette expression « illettré et du commun » me fait penser à ce que une sœur me disait il n'y a pas bien longtemps dans un d'autres croyants qui disaient des rassemblements, ils n'ont même pas suivi une école de théologie, et avec un forme de mépris. Nous ne suivons pas des écoles de théologie, nous avons le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous montre les choses de Dieu, nous enseigne. Et je voulais le dire par rapport à ce chapitre 12, parce que on pourrait peut-être penser que si on n'a pas fait une école, si on n'a pas eu un enseignement pendant X années, alors je ne suis pas capable d'apporter dans l'Assemblée. Je crois qu'on se trompe. Le Saint-Esprit est là, il est toujours le même, et il est pour chacun de nous, et il veut nous enseigner, nous montrer les choses de Dieu, nous conduire dans les choses de Dieu. Et on voit que les premiers apôtres étaient des personnes simples. Pas besoin d'être très compliqué, d'être très intelligent.
Ce sont des dons de grâce. Personne ne peut se prévaloir, se vanter d'avoir reçu quelque chose, c'est un don de grâce. Et je pense qu'il faut que nous lisions ensemble ce qui est dit aux Corinthiens, aussi dans la première épître au chapitre 4. D'abord au verset 1er, que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs. Celui dans le rassemblement qui a reçu un don particulier, c'est le serviteur des autres. C'est pas celui qui est là, qui décide tout, qui prend une autorité et qui prend une place. Non, c'est un serviteur. Et puis si nous continuons un peu plus loin, verset 7 ou peut-être déjà le verset 6. « Alors frère, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin que quand nous vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfiez pas pour l'un contre un autre. Car qui est ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? C'est un don de grâce. Insister beaucoup là-dessus. C'est donc quelque chose de complètement immérité. Aujourd'hui, dans le monde, on ne fait pas ça. On donne des positions aux gens selon leurs capacités, et ils peuvent s'en prévaloir. Moi, je suis ceci, je suis ingénieur, je suis responsable de ceci, je suis directeur de ça, Le Seigneur donne des dons de grâce, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Ce qui fait beaucoup de mal dans la chrétienté, peut-être parmi nous, c'est tous ceux, sous prétexte qu'ils ont reçu un don de Dieu, qui prennent une position, qui veulent jouer un rôle. C'est une lèpre parmi nous. Seigneur, nous apprenne, et nous avons, ça a été dit tout à l'heure, sans par Marc, nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu au moins un don de grâce. Mais si nous faisons comme les Corinthiens, nous en prévalons dans une espèce de concurrence. C'est ce qu'on déteindra l'esprit. Et ce don risque de ne pas être pour le bien, pour l'utilité, mais au contraire, pour la ruine, pour la catastrophe. Gardons-nous de nous prévaloir, gardons-nous de vouloir jouer un rôle, gardons-nous de vouloir être quelque chose sous prétexte que le Seigneur nous a confié quelque chose. C'est un don de grâce.
Il y a quelque chose qu'il faut que nous comprenions. Ce qui est en vue ici, c'est le corps, ce n'est pas l'individu. Il nous est dit au verset 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. L'utilité pour le corps, ce n'est pas l'utilité pour l'individu. Et si nous le faisons, il y a un contresens. L'individu, ou bien le croyant, est un serviteur dans le corps, pour le service du corps, pas pour... C'est un contresens si nous ramenons les choses à nous. Ce qui est en vue ici, c'est le corps. Dieu s'occupe du corps, c'est-à-dire de l'ensemble. Pour l'ensemble, il est donné. Il est donné à quelqu'un pour l'ensemble. Et non pas de le ramener à nous-mêmes.
Don de grâce, c'est une grâce accordée par le Saint-Esprit. Pas quelque chose, c'est pas un dû, c'est une grâce à chacun. Et je reviens sur ce qui nous est dit en 1 Pierre 4, parce qu'il y a là un enseignement très précieux par rapport au don de grâce. Chacun de vous a reçu quelques dons de grâce. Et nous devons être des bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Et puis, quel est le but? Afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. La gloire en revient à Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui est mis en avant qui est glorifié. Ce n'est pas celui qui a le don qui est mis en avant, suivi, acclamé peut-être. Non. La fin, c'est que Dieu soit glorifié. C'est qu'il y ait de l'édification. Et que l'on soit des bons dispensateurs de cette grâce variée de Dieu. Et c'est pour ça, la grâce est variée de Dieu. Il y a des dons de grâce différents. Il y a une diversité. Mais notons aussi que c'est le même esprit. L'esprit n'est pas multiple, comme peut-être on voudrait le faire croire. Non, il est un seul esprit. L'esprit de Dieu. Il est dit à plusieurs reprises, un seul esprit, le même esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas un esprit multiple, non. Et soyons attentifs à cela. Alors, unité de l'esprit, et puis diversité des dons de grâce, la grâce variée de Dieu. Que nous puissions écouter ainsi la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit de Dieu,
et accomplir simplement pour l'utilité le don de grâce qui nous a été accordé à l'un, à l'autre, à un frère, à une sœur, à tout enfant de Dieu.
Je veux juste dire par rapport à ce qu'on a précisé, qui est très important, qu'un don n'est pas donné à quelqu'un pour lui-même, pour son bénéfice personnel, ni même pour son accroissement spirituel. C'est très important, un don, c'est donc ce que dit 1 Pierre 4, on a déjà plusieurs fois cité ce verset, « Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, utilisez-le les uns pour les autres. » Un œil, par exemple, dans le corps, il ne voit pas pour lui-même, il voit pour le corps tout entier. Ça, c'est vrai pour tous les organes que nous avons dans notre corps. Et ça, c'est important parce que, je le souligne aussi, parce qu'il y a des enseignements qui sont quelquefois donnés et dérivent, en particulier si on regarde ce qui est dit en 1 Corinthiens 14, au verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'assemblée. » Et donc, on a eu bien des fois des remarques sur ce verset, que le don des langues, oui, c'est pour son édification personnelle, on a ça pour son édification personnelle, on en reçoit du bien, etc., en dehors même d'autres choses. Non, c'est pas du tout le sens de ce passage. C'est le contraste qui est donné entre un don qui édifie l'assemblée, comme le don de prophétie, et puis l'exercice d'un don qui n'est pas du tout donné dans ce but, qui s'exerce dans le corps et qui va tout au plus permettre à celui qui parle en langue, par exemple, peut-être recevoir un bénéfice pour lui-même, mais c'est le contraste qui est mis entre ces deux choses. C'est pas que le don de langue est donné pour mon édification personnelle, par exemple. Non. Mais donc, important de réaliser ce qu'est un don, c'est une capacité donnée à l'un, différente d'une capacité donnée à l'autre, pour exercer un certain service. Donc, on revient peut-être aussi à la question qui est posée. On peut dire que les dons sont des capacités qui sont données à l'un ou à l'autre dans ce chapitre. Et en Éphésiens 4, on voit que la personne est appelée même, elle-même un don. Enfin, il a donné des apôtres, des docteurs. Ça montre que pour le corps, la personne, c'est l'organe avec la capacité qui exerce un certain service. Donc le don, c'est la capacité et ensuite, cette capacité permet d'exercer une certaine fonction qui est donc un service. Et donc, il ne passe pas simplement, on l'a souligné aussi tout à l'heure, pas simplement le fait d'avoir reçu une capacité, mais comment on l'utilise. Et là, c'est le Seigneur. C'est ramené au Seigneur parce que chaque croyant a à dépendre du maître comme serviteur pour savoir comment le Seigneur, qui est dans l'image, c'est la tête du corps aussi, qui va dire aux membres comment il doit fonctionner. La capacité, c'est une chose. Ensuite, comment on utilise ce que le Seigneur nous a donné, et ça doit se faire dans la dépendance du Seigneur. C'est lui la tête, c'est lui qui va dire comment on va agir avec la capacité qu'on a reçue. On l'a souligné au début, les Corinthiens avaient beaucoup de dons, mais justement, ils exerçaient quelquefois dans le désordre, pour leur propre satisfaction, etc., pas dans la dépendance du Seigneur. Et ensuite, ce qui nous est présenté au verset, toujours au verset 6, il y a l'opération, diversité d'opérations, et là c'est Dieu qui opère tout en tous. On voit que au-dessus, disons, de l'ensemble, il y a ce que Dieu veut opérer, et c'est lui qui est qui opère à travers même les différents services qui sont exercés. On voit par exemple c'est au chapitre 3. On voit des serviteurs, enfin des questions de serviteurs, verset 4. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul, l'autre moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qui donc est Apollos ? Et qui Paul ? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Donc là on a à la fois la capacité donnée et le service confié, qui vont ensemble. Et moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. En fait, c'est Dieu qui opère. L'opération est liée à Dieu lui-même et qui se sert de différents serviteurs, etc. Mais en fait, c'est Dieu qui opère. Donc, on peut dire, il y a le don, la capacité liée au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui donne, c'est distribué comme il le veut pour l'utilité, etc. Et ça peut être à un moment pour l'utilité, ça peut être différents dons qui peuvent varier dans le temps, dans le moment, etc., suivant l'utilité. Et puis, il y a le Seigneur, le serviteur qui a reçu cette capacité, qui dépend du maître pour l'exercer. Et en fait, au-dessus de tout cela, il y a ce Dieu qui opère, qui, à travers ces différents services, etc., va finalement donner de l'accroissement. Même si le serviteur est fidèle, en fait, il dépend du maître, il s'aime, ça, mais qui est-ce qui opère? C'est Dieu qui opère.
On voit donc dans ces deux versets, 4 et 5, et 6, que toutes les personnes de la divinité sont impliquées dans ces manifestations spirituelles. Saint-Esprit, le Seigneur et Dieu. Comme Jean-Marc vient de le dire, c'est des dons qui sont donnés par le Saint-Esprit et qui sont exercés par le Saint-Esprit. Le fait que quelqu'un ait un don ne le dispense pas d'être exercé pour que le Saint-Esprit soit libre d'agir en lui. Un frère disait, pas de moi, il disait, il y a 5% de dons et 95% d'exercice. Donc c'est cette prière que nous trouvons dans psaume 84, « Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. » Pour avoir tous les dons du monde, si les chemins ne sont pas frayés dans le cœur, si le Saint-Esprit n'est pas libre d'agir, il ne se passera rien de bon. Ensuite, le serviteur dépend du Seigneur pour son service. Il a un ministère, il exerce dans la dépendance de son Seigneur. Ce n'est pas un comité qui l'envoie, ce n'est même pas les frères d'un rassemblement qui l'envoie, il dépend du Seigneur. Et là aussi, combien c'est important de vivre dans la communion et la dépendance du Seigneur pour exercer un service de sa part qui soit pour sa gloire. Et puis comme l'a dit Jean-Marc, l'œuvre de Dieu, c'est, on peut dire, ce que Dieu fait sur la terre, d'une manière générale. Et là aussi, il y a une dépendance, et le Seigneur nous enseigne, dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean en particulier, où le Seigneur dit une chose étonnante. Il dit, le Fils ne peut rien faire. Vous vous rendez compte? Le Fils de Dieu ne peut rien faire, à moins qu'il ne voie faire quelque chose au Père. C'est-à-dire que le Seigneur ne crée pas l'œuvre, mais dans sa parfaite humilité, sa soumission, s'inscrivait dans l'œuvre que Dieu poursuivait sur la terre. C'est une chose extrêmement importante, n'est-ce pas? Souvent on croit qu'il faut créer l'événement, il faut se bouger un peu. Non, soyons dépendants, disponibles, pour que nous puissions nous inscrire, nous aussi, dans l'œuvre que Dieu poursuit. C'est, vous voyez, quand on entend parler d'efforts d'évangélisation, quand on entend parler d'actions, ça sent un tout petit peu le soufre, parce qu'on se dit, mais Dieu dans tout ça, l'œuvre de Dieu dans tout ça. Alors, pas dire qu'il faut rien faire, mais avant tout, avant de faire, est dépendant pour nous inscrire dans l'œuvre de Dieu.
J'ai souligné ce qui est dit au verset 4, il y a diversité, contraste entre diversité de dons et le même esprit. Ce que Paul présente ici, on l'a vu, c'est aussi pour bien montrer aux Corinthiens la différence avec ce qu'ils connaissaient. Il y avait beaucoup d'esprits différents, d'esprits mauvais qui agissaient derrière les idoles, etc. Une multitude d'esprits, comme on le voit aussi dans la parole, dans le contraste avec un seul esprit, l'esprit de Dieu qui habite maintenant dans tous les croyants, et comme c'est le même esprit justement qui les unit en un pour former le corps de Christ, un corps animé par un même esprit. C'est un corps vivant, comme notre corps humain est animé par notre esprit, nous avons chacun. Bien, le corps de Christ est un corps vivant composé de divers membres qui sont unis et animés par le même esprit. Et ce qui donne l'unité de ce corps. Et ça, c'est un point très, très important. C'est parce qu'il y a un seul et même esprit qui agit qu'il y a cette unité du corps de Christ. Et donc, en tant que membres de ce corps, ayant chacun le même esprit, eh bien cet esprit qui va coordonner l'action des membres et permettre justement qu'il y ait cette harmonie dans l'activité du corps de Christ. Et c'est bien là que nous avons courbé la tête, effectivement, et nous nié de ce que nous ne laissons pas assez agir l'esprit en nous, très souvent, et c'est pour ça qu'il y a des dysfonctionnements, parce que nous agissons nous-mêmes. Et le grand exercice pour chacun de nous, c'est justement d'apprendre à laisser agir l'Esprit Saint en moi. Voilà, on peut se préoccuper effectivement beaucoup de choses, de mettre en souci beaucoup de choses. Alors qu'en fait, ce que la parole souligne là devant nous, c'est apprendre à fonctionner chacun d'abord à la place qui nous est donnée dans le corps, discerner quel est le don que nous avons reçu, et de le faire dans la dépendance du Seigneur, en laissant l'Esprit nous permettre cette dépendance. Comment est-ce qu'on dépend du Seigneur? C'est par l'action de l'Esprit, en laissant l'Esprit agir pour qu'il y ait ce lien vivant entre moi et mon maître, entre moi et le Père aussi, sous un autre aspect. Mais quant au service, c'est le Seigneur qui est placé devant nous, c'est lui le maître. Donc diversité et unité, c'est vraiment la caractéristique du corps de Christ. Et en même temps, comme on le voit aussi, c'est en 2 Corinthiens 3, là où je vais juste lire le verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Parce que justement, c'est aussi une caractéristique de l'action de l'Esprit, la liberté. Le fait qu'on ne suit pas simplement des règles bien tracées dans l'Écriture. On a souligné, c'est très important que l'Esprit Saint ne va pas nous faire agir d'une façon qui soit en dehors de ce qu'enseigne l'Écriture. Ça, c'est très très important, effectivement. Mais en même temps aussi, le croyant n'a pas seulement l'Écriture, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et il a, c'est pas simplement s'appliquer à suivre la lettre des choses qui sont écrites, comme c'était sous la loi, etc. Et non, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous ouvre les Écritures, nous permet de discerner ce que la parole enseigne, et puis aussi qui va nous conduire dans ce qui doit être fait à tel moment ou à tel autre. On peut dire des choses qui sont très justes, mais qui ne sont pas données au bon moment, par exemple, eh bien, c'est pas parce qu'on ne s'est pas laissé conduire par l'Esprit, ça n'apportera pas ce que Dieu voudrait, même ça peut être une entrave à l'action de Dieu. Donc, il y a vraiment on peut dire ces deux dangers. D'un côté, penser que l'action de l'Esprit, on l'a souligné tout à l'heure, nous amènerait à agir comme bon nous semble, puisque c'est le Saint-Esprit qui m'y conduit, et bien voilà, on fait. Voilà. Et puis il y a l'autre, on a justement la parole qui montre très clairement cet enseignement que nous avons ici et d'ailleurs, que nous avons à nous laisser, que les choses sont très clairement tracées dans l'Écriture et qu'on ne peut pas. Voilà, ce qui est écrit, le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire en dehors de ce qui est écrit. Et puis il y a l'autre danger qui serait de penser de s'attacher à la lettre des choses telle que c'est dans la parole et qu'il suffit, disons, de bien connaître l'Écriture et d'être ça c'est écrit, donc c'est ça et donc on doit le faire, telle chose comme ça. Non, pas forcément. C'est-à-dire comment l'appliquer, à quel moment, etc. C'est pas parce que c'est écrit dans la parole que forcément c'est ce qu'il faut faire juste à ce moment-là. Non. Il y a vraiment aussi ce côté de l'action de l'Esprit qui va nous conduire dans ce que nous avons à faire à tel moment ou à tel autre, dans telle ou telle situation. C'est pas la même chose. On peut apprendre des versets de la parole, les appliquer n'importe comment. Mais voilà, il y a aussi ce danger-là. Donc il y a aussi cette notion de liberté, que le Saint-Esprit doit être libre d'agir en moi, et nous devons lui laisser sa liberté aussi dans le rassemblement, dans la vie du corps, pour que ce corps puisse fonctionner comme Dieu le désire, comme le Seigneur le désire. Nous voulons encadrer les choses par nos règles, nos traditions, nos façons de penser, eh bien on entrave, on peut éteindre l'Esprit, on peut entraver son action, on peut être désobéissant personnellement, seulement on attriste l'Esprit de Dieu en nous, ou alors on parle diverses sortes de règles, on peut éteindre l'action de l'Esprit dans l'Assemblée et entraver son action. Donc voilà, on a tous ces enseignements très précis qui nous sont donnés pour apprendre comment fonctionner individuellement, mais aussi ensemble, à la gloire de Dieu et à la gloire du Seigneur.
Vient d'être dit, on peut éteindre l'esprit ou on peut attrister l'esprit. Et il dit, n'attristez pas cet esprit, n'éteignez pas l'esprit. Et on peut le faire de deux manières. Soit en étant hyperactif et en agissant au-delà de ce que Dieu nous a donné. Et on peut aussi être apathique et être paresseux, ce qui est aussi dangereux. Et on est encouragé à servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul, par rapport à Timothée, on le voit, il dit à plusieurs reprises, c'est pas comme si Timothée peut-être était un peu craintif. En 1 Timothée 4, il est dit au verset 14, « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. » Ne néglige pas. Peut-être il pouvait avoir une négligence. Est-ce que quelqu'un ici est négligent quant au service que le don de grâce que le Seigneur lui a donné à chacun est donné? Dans la seconde épître à Timothée, il dit « Je te rappelle de ranimer le don de grâce. » Peut-être il était un peu étiolé aussi. « Ranimer le don de grâce. » Et puis à la fin de Timothée 4, « Accomplis pleinement ton service. » Voilà des encouragements à ne pas être paresseux, à avancer. Et puis dans l'Épître aux Colossiens, au dernier chapitre, il est dit à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. On peut aller au-delà de ce que Dieu nous a donné, ce que le Saint-Esprit nous a donné, mais on peut aussi rester en deçà et en n'accomplissant pas le service. Le don de grâce que Dieu a donné pour l'édification de l'Assemblée.
Encore quelque chose qui rejoint, bien sûr, ce qui a déjà été dit sur cette pensée de l'utilité, hein, du fait que le don est pour les autres et pour le corps. Et on peut parfois peut-être aussi avoir, pour ma part en tout cas, j'ai longtemps eu une assez mauvaise compréhension peut-être, c'était que parler par l'esprit, si on pense à ce service, à ce don particulier qui est de présenter la parole, qui n'est pas le seul don loin de là dont il est parlé. Mais si on pense à ce don-là, peut-être qu'il y a des jeunes ici qui se disent que parler par l'esprit, c'est une sorte de pensée magique qui vous vient d'un coup, on n'a jamais pensé à rien. Et puis tout à coup, ça vous vient, ça vous tombe dessus, et si vous vous levez, vous allez parler de quelque chose dont vous n'aviez jamais pensé avant, vous n'étiez jamais intéressé à ce sujet-là, et puis c'est l'esprit qui a parlé. Ça, c'est de la magie, ça. C'est pas parler par l'esprit. Et c'est important d'avoir, de penser, de comprendre ça. Et quand il est dit en vue l'utilité, eh bien, ça veut dire que c'est aussi, il me semble, quelque chose qui est heureux, quelque chose qui est bon dans la dépendance du Seigneur, en s'attendant au Seigneur, en lui demandant d'être aidé pour ça, bien sûr. De se dire, mais Seigneur, si j'ai exercé ce don-là, eh bien, permet que ce soit utile pour ceux qui soient là. Et puis ça veut dire aussi peut-être que j'ai à être attentif à ceux qui écoutent ce jour-là. Si je suis dans une salle où il y a la moitié de l'assistance, ce sont des enfants ou des jeunes adolescents, et que pendant une heure je parle de choses dans lesquelles un enfant de moins de, je sais pas, de 18 ans ne peut pas entrer, et peut-être que ce que j'aurais dit sera parfaitement juste, ce sera tout à fait présenter la parole, etc. Mais à un moment donné, est-ce que j'ai été exercé, est-ce que j'ai prié le Seigneur peut-être avant de me lever pour dire « Seigneur, permets que ce que je vais présenter, eh bien, conduis-moi pour que ce soit utile pour ceux qui sont là. » Et la moitié de ceux qui sont là n'ont rien compris à ce que j'ai dit, même si encore une fois ce que j'ai dit était tout à fait juste en soi. Alors c'est... Il me semble aussi important d'avoir cet exercice. De la même façon, si on dit, on sait que là, ceux qui sont là, peut-être je les connais, il me semble qu'il n'y a que des croyants qui sont là. Et puis à l'inverse, il peut y avoir d'autres situations dans lesquelles, tiens, il y a des personnes qui ont été invitées, qui sont là, il y a des jeunes que je connais dont je sais que peut-être leur situation est difficile, etc. Eh bien, le Seigneur, c'est aussi, il ne faut pas avoir peut-être peur de ça, il me semble, de penser cet esprit de sagesse, de conseil, de sobre bon sens, encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu peut nous conduire à être attentifs aux besoins que nous connaissons peut-être
parmi ceux qui sont là. Alors, tous les cas ne sont pas les mêmes. Si un jour je suis amené à présenter la parole devant personne, je ne connais personne qui est dans la salle, ou peut-être une seule personne. Alors c'est sûr que là, ben, je vais m'attendre entièrement au Seigneur, peut-être sans, et en lui demandant d'être conduit. Mais lorsque le Seigneur permet que l'on connaisse un petit peu le contexte dans lequel on est, le cadre dans lequel on est, les personnes qui sont là, qui vont entendre ce que je dis, eh bien on peut vraiment s'attendre au Seigneur, mais lui demander cela en disant « donne-moi quelque chose qui sera utile ». Ce qui compte, ce n'est pas que j'ai présenté quelque chose qui me parle à moi, qui me touche, qui me plaît. Peut-être il y a un livre de la parole que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup, beaucoup étudié. Et alors, chaque fois que je me lève, le Seigneur me conduit à lire toujours dans l'évangile de Jean ou dans le Deutéronome, parce que c'est mon livre préféré. Pas ça, la pensée de l'esprit. C'est pas ça. Alors que le Seigneur encourage vraiment tout, en particulier les frères qui ont ce service de présenter la parole, dire « Seigneur, permets ce que je présente, donne-moi quelque chose qui sera utile pour ceux qui sont là aujourd'hui. » Et le Seigneur peut répondre à cette prière-là.
Je voudrais aller tout à fait dans le sens de ce qu'on vient d'entendre. Le Saint-Esprit est un esprit de conseil, c'est-à-dire de sobre bon sens. Nous avons besoin d'être gardés d'un écueil, c'est le mysticisme. Il est aussi dit dans le chapitre 14 de cette même épître que, verset 32, l'esprit des prophètes, donc quelqu'un qui a un don éminent, est assujetti aux prophètes. C'est-à-dire qu'il n'est pas hors de sens lorsqu'il présente quelque chose. Et si en effet on attend un éblouissement, on risque d'être très mystique. Le jour où on pense avoir eu cet éblouissement, il est très mystique. Il y a une difficulté de traduction. On sait que notre traducteur a eu des difficultés quand il a écrit le mot « esprit ». Est-ce qu'il fallait mettre toujours un grand « e » dès le Saint-Esprit ou un petit « e » qui veut dire notre esprit. Et donc il y a cette difficulté, la parole ne sépare pas toujours mon esprit, c'est-à-dire ce qui peut être en moi, ce à quoi je pense, tout simplement, qui nourrit mon cœur, mais qui est lié à mes pensées, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe par notre esprit, avec un petit « e ». Le Saint-Esprit, grand « e », passe par notre esprit petit e. Il utilise ces canaux-là. Vous voyez, on est loin du mysticisme. Et je voudrais dire aussi par rapport à ce qu'a dit Rémi, pour encourager certains jeunes, c'est vrai qu'il y a un certain opprobre. La première fois que tu te lèves, ou la première fois que tu pries en réunion de prière, pourquoi? Parce que tu laisses quelque chose à voir de ta vie avec le Seigneur. Et certains préfèrent tout fermer parce que je veux pas qu'on voit quelque chose dans ma vie, parce que je sais que je suis pas toujours ce qu'il faut, hein, et puis que moi j'ai bataillé avec ça. Hein. Et puis il peut y avoir la sortie de réunion hein, aussi. On vous attend à la sortie. C'est de l'opprobre. Non, c'est de l'opprobre. Alors je voudrais dire aussi attention ceux qui attendent à la sortie. Vous pouvez faire un mal considérable parce qu'il y a eu peut-être un lapsus, parce qu'il y a eu une parole qui n'était pas tout à fait comme vous auriez voulu qu'elle soit. Je ne dis pas d'une grosse erreur, quelque chose qui doit être reprise, il ne s'agit pas de ça. Mais là même, s'il y avait quelque chose qui devait être reprise, il faut le faire avec amour, avec grâce, en se mettant au pied de ce jeune qui a peut-être dit quelque chose qui n'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Mais si on m'attend à la sortie, je risque ensuite de dire, moi, maintenant c'est terminé, je ne dis plus rien. Mon beau-père, que beaucoup ont connu, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, il faut te placer devant l'autre présence. J'oublierai jamais ça. Il faut te placer devant l'autre présence. C'est un service, il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Voilà l'autre présence. Il faut que je me place devant le Seigneur, que j'ai affaire au Seigneur, qu'on me fasse des remarques. Si je sens que c'est le Seigneur que ça vient du Seigneur, j'en tiens le plus grand compte. C'est aussi un aspect, ça. Mais il faut que je me place devant le Seigneur, pas devant les frères. Pas chercher l'approbation des frères. C'est pas toujours facile, ça. Hein. Chercher l'approbation des frères. Vous asseyez et vous espérez que quelqu'un vous dise que vous avez tenu une bonne réunion. Ou vous dise quelque chose. C'est devant les frères, on ne se place pas devant le Seigneur. Ce sont des écueils, mais je voudrais encourager les jeunes. Si tu as 5 paroles qui sont là sur ton cœur, tu les dois aux autres. Tu les dois aux autres. Et le Seigneur a dit à quelqu'un, pas fait beaucoup de compliments le Seigneur, mais il a dit une fois à quelqu'un, tu es bienheureux, Simon Barjonas. Tu es bienheureux. Pourquoi ? Parce que tu as donné la pensée de Dieu. Parce que tu as été un canal pour dire quelque chose qui venait de Dieu. Et bien qu'un jeune, peut-être qui hésite, puisse entendre le Seigneur lui dire cette parole, voilà, c'est faible, tu as dit quelque chose. Tu es bienheureux.
Ils l'ont jamais fait. Je rappelle donc ce que Benjamin a dit, il ne faut pas un don pour cela. Tout dépend de l'état de notre cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a des fois on vit en culte, notre cœur est rempli du Seigneur. Eh bien, s'il nous met un cantique devant nous, disons-le, ou une prière, et à propos de quelque chose qui n'est peut-être pas toujours juste, on peut se tromper aussi, dans des cantiques qui ne sont pas forcément dans le sujet. Et je me rappelle avoir entendu le cas d'un jeune frère qui a visité un cantique qui n'était pas du tout dans le sujet du culte. C'était même un cantique d'évangélisation. Bien sûr, après le culte, plusieurs frères sont allés vers lui et voilà, et ce n'est pas toujours dit non plus avec diplomatie. Et cela peut être décourageant. Mais il s'est avéré quelque temps après que ce cantique d'évangélisation avait été le résultat d'une conversion. Voilà comment Dieu agit. Nous sommes là pour critiquer, pour juger. Le Seigneur voit ce qu'il y a dans le cœur. Et puis aussi ce qu'il a été dit à propos du Saint-Esprit. Il faut parler en fonction de l'auditoire aussi. Rappelons-nous aussi l'apôtre Paul qui fait un reproche aux Corinthiens, je dois vous donner encore du lait alors que vous voudriez supporter la viande. Eh bien, il a donné ce lait. On le voit aussi dans l'Épître aux Hébreux. Là aussi, je vous ai donné du lait. Et parfois, nous aussi, nous avons besoin de revenir au lait, de revenir aux choses de base. Mais c'est ça aussi que le Saint-Esprit nous montre. Nous avons aussi une intelligence. Il nous a dit de chanter avec l'Esprit, mais nous avons aussi l'intelligence qui doit nous dire, ben voilà, dans telles circonstances, eh bien, je vais m'adresser plus aux jeunes, où il y aura aussi une parole pour les jeunes, pour nous encourager chacun. N'oublions pas que nos enfants les plus jeunes, s'ils viennent ici, ben, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils pourraient déjà, dans leur jeune âge, être découragés. Mais si nous avons une parole pour eux, combien cela peut leur faire du bien. Et alors, je reviens juste à, il y a diversité de dons de grâce. On l'a rappelé, nous devons être conscients que le don que Dieu nous donne, c'est un don de grâce. Mais je dirais qu'il y a encore une étape avant celle-là. Est-ce que je suis rempli de la grâce de Dieu? Est-ce que je suis conscient que tout ce que je suis, que tout ce que je fais, que tout ce que je dis, c'est par la grâce de Dieu? Avant même de recevoir ce don, est-ce que nous n'oublions pas souvent que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu? Tout est grâce. Et plus je serai conscient de cette grâce, plus je serai reconnaissant et plus j'aurai aussi envie que cette grâce que le Seigneur m'a donnée, qu'à travers moi, elle passe vers les autres. Nous sommes souvent prompts à juger, à critiquer, et nous oublions la grâce de Dieu dont nous avons été les objets. Et en effet, nous l'avons vu déjà plusieurs fois dans la première épître de Pierre, c'est cette grâce que nous devons manifester aux autres. Dans tout ce que je fais pour le Seigneur, et même si quelque part je dois reprendre un frère, c'est dans un sentiment de grâce. Cela est répété cinq fois, au moins cinq fois dans notre chapitre, don de grâce. Chaque fois c'est insisté, don de grâce. Celui que j'ai reçu, mais celui que je dois aussi manifester vis-à-vis des autres. Et nous l'avons rappelé, chacun a reçu un don de grâce. Nous le voyons dans ce verset 6. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Et cela est répété. Voyons verset 11. Le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Nous le voyons encore plus loin, au verset 27. Or vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Il y a peut-être encore un autre verset, cela a insisté sur chacun. Chacun de nous a un don, au moins un don à utiliser pour l'assemblée. La question se pose maintenant à chacun. Quel est mon don? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela devant le Seigneur? Quel est le don que le Seigneur m'a donné? Puisque chacun de nous a un don. On peut passer des années, on vient aux réunions, on est content. Mais Dieu nous demande, Dieu nous donne un don que nous avons à utiliser. Quel est mon don? Et pour cela, nous avons besoin de nous agenouiller, de prier au Seigneur qu'il nous montre ce don. C'est la première étape. Quel est le don que moi j'ai reçu? Jeunes, plus âgés, sœurs, frères, tous nous avons un don. Nous savons bien sûr il y a des dons visibles pour les frères dans l'assemblée, mais il y a plein de dons, plein de dons. Quel est le don que moi j'ai reçu? Et ensuite, quand nous avons compris quel était ce don, que nous demandions au Seigneur de nous aider à le manifester, mais toujours, toujours dans la grâce. Ne jamais oublier, sans la grâce, je ne suis rien. Et puisque moi j'ai tant besoin de cette grâce, eh bien que je puisse faire passer cette grâce vers les autres, la grâce du Seigneur.